Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur Mon Paris Santé afin de parler nutrition. Les mauvaises habitudes alimentaires sont de plus en plus répandues chez les adolescents. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez les adolescents est depuis longtemps un problème de santé publique important. Plus d'un adolescent sur cinq est concerné. Ce chiffre a augmenté depuis la dernière enquête de 2018, passant de 21 à 23% en 2022. On retrouve que les taux de surpoids et d'obésité sont plus élevés chez les garçons, 27%, que chez les filles, 17%. Enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette enquête révèle également que les personnes les plus touchées sont celles qui ont peu de moyens financiers. Afin de nous éclairer sur le sujet et de répondre à nos questions, nous recevons aujourd'hui Manon Clavier, diététicienne nutritionniste, diplômée en diététique nutrition ainsi qu'en santé publique et nutrition. Bonjour Manon.
Bonjour.
Nous recevons également notre chroniqueuse Virginie qui nous parlera du témoignage d'une personne atteinte de diabète et de son rapport à la nutrition. Bonjour Virginie.
Bonjour Sonia. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors, dites-nous Manon, pour commencer, qu'est-ce que la nutrition ?
Alors, la nutrition, c'est tout simplement la façon dont notre corps va utiliser les aliments qu'on mange pour fonctionner correctement. Elle permet de nous donner de l'énergie, de grandir, de rester en bonne santé également et même de mieux se concentrer en cours. Donc ça va être hyper intéressant. Quand on parle de nutrition aujourd'hui, on regroupe à la fois l'alimentation mais aussi l'activité physique qui avant n'était pas prise en compte autant. Et pour des adolescents, l'activité physique devrait être de 60 minutes par jour. Voilà. Quand on dit activité physique, c'est pas du sport. L'activité physique, c'est simplement marcher, se tenir debout, aller acheter son pain à pied, faire le ménage, etc. C'est des petits déplacements.
Donc oui, en effet, le rapport de l'OMS suscite beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des activités physiques chez les adolescents qui ne sont pas du tout ce qu'elles doivent être.
Exactement.
C'est quoi l'importance du sport, de ces activités physiques ? Est-ce que c'est indissociable d'une bonne nutrition ou est-ce qu'on peut...
Exactement, c'est indissociable d'une bonne alimentation, c'est-à-dire que ça va venir prévenir l'apparition de certaines pathologies, les pathologies notamment cardiovasculaires. On va travailler la fréquence cardiaque, on va travailler le cardio. Et puis, en parallèle, il va y avoir une composante aussi sur la psychologie, le psychisme, où l'activité physique va permettre la production d'endorphines et donc jouer sur le bien-être et va s'en découler un sommeil de meilleure qualité. Voilà.
Donc le rôle principal de la nutrition, ça va être le bien-être pour commencer.
Exactement, la santé, rester en bonne santé.
C'est ce qui va nous aider à faire tout le reste donc, de nos activités. Et vous avez parlé de concentration,
oui.
La mémoire. Donc, à votre avis, la place de l'éducation à la nutrition, elle se trouve où ?
En fait, la nutrition, l'objectif, c'est apporter à notre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc, être performant en cours, ça va favoriser la concentration, mais également le fait de se souvenir des notions abordées. Donc, ça, c'est hyper important. Le souci, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a une prise de conscience de la part des ados, de la part même de certains enfants et d'adultes. En revanche, c'est vrai que l'éducation nutritionnelle n'est pas encore suffisamment présente et il y a encore un travail à faire de notre côté. Mais petit à petit, ça se met en place et je le vois au travers d'actions prévention qu'on va mettre en place dans les écoles, dans les collèges, les lycées. À destination justement de sensibiliser les jeunes à l'importance d'une alimentation équilibrée pour la santé.
À votre demande ou à la demande de l'éducation nationale ?
À la demande de l'éducation nationale, oui, mais également à la demande de professionnels de la nutrition. Étant sur le terrain, on est vraiment confronté aux problèmes de santé qu'engendre une mauvaise alimentation. Et c'est ce qui nous pousse justement à mettre en place différentes activités de prévention.
Et vous intervenez sur quel type de niveau scolaire ?
Alors j'interviens, ça peut commencer en maternelle avec la découverte de certains aliments. Ensuite, ça va être surtout axé élémentaire où on va parler de ce qui s'appelle les protéines, les lipides, les glucides, je reviendrai un petit peu dessus plus tard. On va parler aussi des fruits et légumes de saison, parce que l'environnement, c'est aussi un domaine aujourd'hui qui demande un intérêt pour notre planète. Et puis voilà, on va aborder aussi un peu l'activité physique et surtout l'impact de mettre en place des bonnes conditions au quotidien, que ce soit en termes d'alimentation et de déplacement, activité physique.
D'accord. En parlant d'impact, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les répercussions d'une mauvaise alimentation ?
En fait, il faut avoir, je pense, en tête le double rôle que peut avoir l'alimentation. C'est-à-dire que si on a une alimentation équilibrée, elle peut prévenir sans problème l'apparition de pathologies, de maladies, comme par exemple le diabète, comme l'hypertension, comme le cholestérol, etc., le surpoids, l'obésité même. Et puis en parallèle, si au contraire on a une alimentation équilibrée, déséquilibrée, ça peut favoriser l'apparition de ces pathologies-là. Donc là, l'objectif, ça va être de transmettre les conseils et les astuces pour mettre en place au quotidien une alimentation équilibrée qui sera du coup synonyme de santé.
D'accord, on pourra revenir plus en détail sur ce qu'on peut mettre en place. Mm-hmm. Et avant ça, Virginie pourra peut-être nous parler d'un témoignage qu'elle a pu recueillir sur une personne qui a du diabète.
Oui, tout à fait. Je vais vous parler d'un aspect très concret de la nutrition, puisqu'il concerne effectivement les personnes atteintes de diabète. Et pour cela, je vais m'appuyer sur le témoignage d'Olivia, qui a été diagnostiquée, elle, en 2013, qui est atteinte de diabète de type 1. Donc, rappelons en France que 4,3 millions de personnes sont concernées par le diabète, par cette maladie chronique. Olivia, donc, est concernée par un diabète de type 1. Le diabète de type 1, il est dû à la destruction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Et le diabète de type 2, il apparaît plus généralement chez les personnes après 40 ans. Et il est dû, en général, à une mauvaise alimentation, un déséquilibre alimentaire, un régime trop riche en sucre, mais aussi en matière grasse et un manque d'activité physique. La nutrition pour un diabétique, c'est donc fondamental, puisqu'il faut en permanence contrôler l'absorption des sucres. Et pour cela, il faut connaître l'indice glycémique de chaque aliment, c'est-à-dire le taux de glucose qui va être testé dans le sang après leur ingestion, pour les diabétiques de type 1, pour pouvoir s'injecter la bonne dose d'insuline. Donc cet indice glycémique, il va être très élevé dans des aliments, dans le sucre raffiné bien sûr, mais aussi dans des aliments comme le riz, les pâtes, le pain, les pommes de terre. Donc Olivia, son témoignage, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, avant elle me disait qu'elle était très indisciplinée parce qu'elle cuisine beaucoup. Elle en a même fait son métier, elle est chef. Et donc elle avait vraiment du mal à réguler son diabète. Mais elle a vraiment appris à gérer les indices glycémiques des aliments et pour cela, et donc elle a pu améliorer son quotidien. Olivia, elle a appris à cuisiner malgré son diabète et aujourd'hui, elle veut partager son savoir avec notamment les populations malgaches parce qu'elle est originaire de Madagascar et qu'à Madagascar, on mange beaucoup de riz et bien souvent, le riz est trop cuit. Donc c'est grâce à sa gynécologue, qui est aussi spécialiste en nutrition pour les femmes après la ménopause, qu'elle a appris quelques règles que je vais donc vous transmettre, qui sont effectivement très utiles pour les personnes atteintes de diabète, mais qui sont aussi des règles universelles. Tout d'abord, on peut tout manger, mais il faut respecter un ordre. C'est-à-dire, on va d'abord manger des légumes, des salades, parce que ça va permettre de ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Deuxièmement, il faut effectivement contrôler la cuisson des aliments. Pour les pâtes, c'est très important. Des pâtes qui sont al dente, cuites al dente, elles auront un indice glycémique moins élevé que des pâtes qui sont trop cuites. Donc on va donc suivre les recommandations de nos amis italiens. Pour le riz, c'est pareil. Le riz qui est trop cuit a un indice glycémique très élevé. Il y a une petite astuce à savoir, c'est-à-dire qu'il faut faire cuire le riz la veille. Ensuite, on le met au réfrigérateur pendant la nuit et on peut le faire réchauffer au micro-ondes. Ça va faire baisser sa charge glycémique. Pareil, on accompagne toujours le riz de légumes et on évite de manger du riz le soir ou juste avant d'aller se coucher. Une autre règle concerne le pain. Le pain blanc, par exemple, a un indice glycémique qui va être très élevé. Donc, il va falloir privilégier une baguette tradition, par exemple, qui sera moins chargée en gluten, ou des pains complets, ou des pains qui contiennent des graines ou des céréales. On va effectivement aussi, sur une règle de cuisson, on préférera faire congeler le pain et le dégeler. ça fera aussi baisser la charge glycémique de ce pain. Et puis, bah, si on met un petit peu de beurre, pas trop parce qu'il ne faut pas trop manger de matière grasse non plus, sur le pain, ça va aussi ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Donc voilà, c'est quelques petits conseils que je voulais partager avec vous grâce à Olivia. Elle a pour projet d'écrire un livre avec sa gynécologue. Et donc, bah, dès que le livre sera paru, je vous donnerai les références.
Merci beaucoup Virginie. Donc juste après notre jingle, on va revenir sur vous Manon.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Alors, grâce à ce témoignage, on peut voir que la nutrition, c'est pas simplement une question d'aliments à consommer, mais de comment les consommer. Donc Manon, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont on doit choisir nos aliments et de les cuisiner donc.
Bien sûr. Alors l'objectif, c'est toujours d'orienter plutôt ses choix, ses achats vers des produits bruts pour pouvoir vraiment faire maison. C'est vrai que quand on fait nos courses, quand je vais en grande surface, 80% de l'offre correspond à des produits ultra transformés. C'est incroyable, c'est énorme. Donc forcément, on va tous être tentés par aller bien vers la facilité, souvent, parce que c'est du pratique, c'est du rapide, à faire réchauffer, etc. Mais c'est pas du santé, c'est pas des aliments santé. Et donc, vraiment, moi, je serais dans une dynamique de promouvoir les produits bruts dans un premier temps et faire maison, faire ses propres assaisonnements. Souvent, les produits ultra transformés sont sucrés, sont salés, enfin trop salés, même trop gras avec des matières grasses qui ne sont pas forcément de très bonne qualité. Et donc, sur le long terme, ça peut avoir des répercussions sur notre santé et donc favoriser par excès de sel, par exemple, l'apparition de problèmes cardiaques avec l'hypertension, par excès de sucre ou de mauvaise graisse, comme tu le disais, l'apparition du diabète et puis d'autres pathologies difficiles à gérer une fois qu'elles sont là. Voilà. Ensuite à ça, le mode de cuisson va être très important. On va plutôt privilégier des modes de cuisson doux, comme la vapeur, le four, qui vont permettre de préserver au maximum la composition nutritionnelle des aliments. Donc je vais préserver les vitamines, je vais préserver les minéraux. Donc ça sera beaucoup plus intéressant pour notre organisme et pour qu'il puisse fonctionner correctement. Et puis, bien évidemment, pour le diabète notamment, on va essayer de cibler des aliments plutôt à index glycémique bas. Alors l'index glycémique, c'est une notion, c'est vrai que je pense tout le monde a déjà entendu parler, mais c'est pas forcément très clair. L'index glycémique, c'est la capacité qu'un aliment, après ingestion, va avoir à faire monter notre taux de sucre dans le sang. Et donc on va pouvoir classer les aliments en fonction de leur index glycémique. Donc je vais avoir des aliments à index glycémique élevé, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire monter mon taux de sucre rapidement après l'avoir consommé. Et puis, je vais avoir des aliments à index glycémique plutôt bas, c'est-à-dire des aliments qui, après leur consommation, vont faire monter légèrement mon taux de sucre dans le sang et surtout le faire monter sur le long terme. Voilà. Et donc, c'est plutôt ces aliments-là qu'il va falloir privilégier pour pouvoir éviter les variations de glycémie qui, sur le long terme, peuvent venir fatiguer notre pancréas et entraîner l'apparition du diabète. Et donc, favoriser les aliments à index glycémique plutôt bas et en parallèle, favoriser donc encore une fois des cuissons courtes, des cuissons douces. Et pour les féculents, on va opter pour, par exemple, des féculents plutôt al dente. Donc quand je dis féculents, J'entends par là les produits céréaliers comme le riz, le quinoa, le boulgour, la semoule, les pâtes. Mais on a aussi les tubercules comme la pomme de terre, l'igname, la patate douce, voilà. Et on a aussi les légumineuses. Les légumineuses qu'on peut classer dans deux catégories, à la fois les protéines végétales parce qu'elles sont riches en protéines, mais aussi dans les féculents parce qu'elles possèdent des sucres lents. Voilà. L'avantage aussi des légumineuses, c'est qu'elles sont riches en fibres. Et les fibres, comme tu le disais, ça a un impact hyper positif aussi sur la régulation du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire qu'elles vont venir limiter l'absorption du sucre. Donc, à chaque repas, avoir des fibres. Et ces fibres, on les retrouve dans justement les produits bruts, majoritairement, peu transformés, mais également donc, dans les légumineuses, dans les fruits, dans les légumes, etc. Donc, ce seront des alliés indispensables lors des repas. Voilà, alliés santé.
En début de cette émission, j'avais mentionné l'enquête faite par l'OMS par rapport à l'obésité des adolescents. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose vis-à-vis de ça? Parce que là, on parle de régime alimentaire, des bons produits à consommer. Mais concrètement, est-ce que les personnes atteintes d'obésité ont besoin d'un régime comme on peut l'entendre généralement, donc juste diminuer la nourriture, ne plus manger de sucre, ne plus manger de gras. Est-ce que ça consiste à ça, un bon régime, une bonne alimentation?
Alors, déjà, avant de commencer, le terme régime, j'aime pas trop, parce que c'est vrai que dans régime, on entend beaucoup restriction, privation. Et en fait, la restriction, c'est pas périn, c'est-à-dire que ça ne se maintient pas sur le long terme. Au bout d'un moment, alors oui, on va réussir à faire un régime sur un mois, trois mois max. Au bout d'un moment, le corps est tellement frustré qu'il y a une sorte de compensation qui se met en place. On a été tellement restreint qu'il va y avoir l'apparition de compulsions. Et ce n'est pas ce qui est recherché, parce que l'apparition de compulsions, bah, ça va être souvent des compulsions alimentaires où eh bien, on va grignoter, on va manger peut-être des quantités de chocolat, de produits sucrés, de produits gras qui seront supérieurs à ce qu'on aurait fait en temps normal. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre en place ce qui s'appelle un rééquilibrage. Et donc, avec mes patients, notamment ados qui souffrent d'obésité ou même adultes, hein, eh bien, on va mettre en place justement ces rééquilibrages où je vais partir de leurs habitudes alimentaires et y apporter des améliorations. Le but, c'est toujours de mettre en place des objectifs qui soient capables de tenir à vie et non sur une durée courte, un mois, deux mois, trois mois. Quand les ados me disent « moi, ça ne me dérange pas, je vais faire du sport tous les jours pendant X temps, etc. Ben, » faire du sport tous les jours, non, ça ne se tient pas sur le long terme. Donc, quand on met en place des objectifs, il faut que ce soit périn et qu'on puisse se projeter à vie. Ça, c'est hyper important. Ensuite, dans rééquilibrage, je trouve que c'est un petit peu plus souple que régime parce que ça ne veut pas dire qu'on supprime totalement les sucres, ça ne veut pas dire qu'on supprime totalement le gras. Le gras est souvent diabolisé, mais on a de très bonnes matières grasses comme les matières grasses végétales, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, qui, eux, vont avoir comme propriété de prévenir l'apparition des maladies cardiovasculaires, donc de prévenir l'apparition des maladies au niveau du cœur. Et donc, ce seront aussi nos alliés. Par contre, oui, on va essayer de limiter le gras d'origine animale, donc le gras qu'on peut retrouver dans le beurre, le gras qu'on peut retrouver dans la charcuterie, par exemple, dans le fromage, qui, lui, en excès, peut entraîner et favoriser l'apparition de maladies du cœur. Donc ça va être une première chose. Après, on va aussi essayer de rééquilibrer les apports en sucre. Et là, on va cibler, comme je le disais tout à l'heure, des sucres entre guillemets de qualité. Donc plutôt des sucres naturels. Le sucre présent dans les fruits, mais aussi dans les légumes, parce qu'il y en a un petit peu. Le sucre présent, pourquoi pas, dans le miel, le sirop d'agave, pour pouvoir venir sucrer les préparations, les gâteaux maison, bien sûr. Oui, l'objectif, c'est de faire soi-même.
Et on va avoir faim.
Voilà. Je parle d'alimentation toute la journée, donc imaginez. Et puis, même sans yaourt, ces produits laitiers, toujours plutôt opter pour du naturel. Voilà, on commence par mettre en place la consommation de yaourt nature dans lequel on va ajouter soi-même le sucre. Ce sera toujours moins sucré que ce qu'on va trouver dans le commerce. Ça, c'est des petites astuces comme ça qu'on va essayer de mettre en place au quotidien avec une bonne hydratation. Et donc là, on va cibler, bien sûr, l'eau, hein, qui est la seule boisson indispensable pour l'élimination des déchets. Notre corps est composé quand même de 60% d'eau, donc c'est important. Et sachez qu'on ne devrait jamais ressentir la soif aussi. C'est-à-dire que quand on a soif, on a déjà perdu 20% de nos capacités physiques, mais aussi psychiques. Donc, c'est hyper important de boire tout au long de la journée et des produits qui vont être sans sucre, hein. Bien sûr, naturels. Après, il y a des petites astuces aussi. Ce serait pourquoi pas d'ajouter un petit sachet d'infusion. Maintenant, ça se développe beaucoup, des infusions froides. C'est plutôt pas mal. Ou encore ajouter des petites rondelles de citron, des petites herbes aromatiques comme de la menthe, etc. Ça permet de donner envie de boire autre chose que de l'eau tout court. Voilà.
Donc, pas de régime, mais un rééquilibrage alimentaire.
Exactement.
Donc, le but, ce n'est pas de se restreindre ou de se priver.
Tout à fait.
Est-ce que je pourrais résumer ça à une bonne nutrition? Ce serait plutôt maîtriser ce que l'on consomme et non pas une mauvaise consommation. C'est-à-dire, tel ou tel produit ne sont pas bons pour la santé, donc je les bannis. Et tel ou tel produit, c'est bon pour la santé, donc je peux en consommer autant que je veux. C'est non.
Exactement. Il n'y a pas d'aliments qu'il faut consommer à outrance. Même les légumes, hein, si on en consomme trop, il y a beaucoup de fibres. Ça peut entraîner des problèmes au niveau du transit. Donc non, ça, c'est vraiment une idée reçue de se dire, bon, je classe dans une catégorie les aliments néfastes où je vais placer la charcuterie, les sucreries, donc les bonbons, le chocolat. Bref, voilà, tous ces aliments un petit peu... qu'on met de côté, qu'on essaye de diaboliser. Non. Et les aliments d'un côté qui sont sains, les fruits, les légumes, les céréales complètes, ce serait triste en fait si on mangeait que des aliments comme ça. Donc non, c'est un équilibre entre tout ça et on ne bannit pas parce que dès lors où on va bannir une catégorie alimentaire, il va y avoir de la restriction, de la privation. Donc sur le moment, il y a un peu cette euphorie qui se met en place, où on se dit, c'est super, c'est facile. En plus, je perds du poids. Donc, la perte de poids, la satisfaction, fait que ça va camoufler, justement, la difficulté. Donc, on arrive sur un mois, deux mois. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de deux, trois mois, là, il y a justement ces compulsions qui vont réapparaître du fait qu'on a été privé. Et ça me fait rebondir sur quelque chose aussi qui est vachement dans l'air du temps en ce moment, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, beaucoup de patients me disent « Mais Manon, est-ce que c'est bien de mettre en place ce jeûne intermittent ?» Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a une bonne partie de la population qui, le matin, va prendre un petit déjeuner plus par habitude. Ça va être un petit déjeuner qui est souvent sucré, à index glycémique élevé, avec de la confiture, des céréales peut-être pour enfants, les céréales du petit déjeuner qu'on connaît tous, ou autres produits sucrés. Et c'est vrai que sur la santé... et sur la matinée, ça peut entraîner des soucis parce que donc, ça va faire monter notre taux de sucre dans le sang. À cela, le pancréas va se mettre à travailler et sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline pour pouvoir rétablir un bon équilibre de ce taux de sucre. Et le problème, c'est que quand on apporte beaucoup de sucre dès le matin, l'insuline est parfois trop sécrétée, ce qui entraîne une chute de ce sucre. Et cette chute va s'accompagner d'un coup de fatigue et d'envie de nouveau de grignoter. Et vers quoi on va s'orienter ? On a besoin d'énergie, de l'énergie rapide. Et donc, on va s'orienter vers ce qui va être sucré. Parce que le sucre, c'est l'apport énergétique le plus rapide. D'accord ? Quand je cherche de l'énergie, je vais plutôt aller vers du sucre rapide. Et malheureusement, ça ouvre la porte au grignotage, ce qui n'est pas bon. Voilà, et peut entraîner l'apparition de surpoids, d'obésité. Donc bien faire attention à ça aussi. Voilà.
Donc, par rapport aux boissons, l'eau est indispensable. L'eau est indispensable et tu as dit qu'il n'y avait pas d'aliments à consommer avec outrance, même des fruits et légumes. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments à consommer obligatoirement dans notre quotidien ?
Oui, il y a des aliments à consommer au quotidien et là, je vais me baser sur les recommandations du Programme National Nutrition Santé. Dans un premier temps, les féculents. Donc, les féculents... Le Programme National Nutrition Santé que je vais citer, PNNS pour aller plus vite, ça doit être consommé à chaque repas parce que c'est ce qui va nous apporter de l'énergie sur le long terme. Donc, nous permettre de tenir la journée, également nous permettre d'éviter l'apparition de grignotage aussi, d'éviter les coups de fatigue et donc l'envie de consommer des produits sucrés. Donc ça va être hyper, hyper important. Ces féculents, on va retrouver aussi des fibres, donc ça va être très intéressant. Et là, le PNNS recommande aussi d'orienter ses choix vers les féculents complets, qui vont être plus riches en fibres, mais aussi en vitamines et minéraux. Et donc, ce sera beaucoup mieux pour notre santé. À cela vient s'ajouter la consommation des produits laitiers. Donc, pour un adulte bien portant, on est à 2 produits laitiers par jour. Un morceau de fromage, un yaourt, un fromage blanc, des petits suisses, etc. Même une tasse de lait. pour des ados, on est à 3 produits laitiers par jour parce que on est encore en période de croissance. Ce qui va être important dans les produits laitiers, c'est le calcium. Et le calcium va permettre la minéralisation donc des os et donc une croissance adaptée. Voilà. Donc 2 produits laitiers par jour. L'objectif, ce sera aussi de varier ses sources. Donc un morceau de fromage le midi, par exemple, et puis un yaourt le soir. Voilà. Et une tasse de lait le matin. Donc ça, c'est les 2 premières composantes. Ensuite, des fruits et légumes, ça, tout le monde connaît les 5 portions de fruits et légumes par jour. Là aussi, c'est hyper important de revenir là-dessus parce que je suis très étonnée quand j'entends mes patients adultes, cette fois-ci, me dire « Mais manger 5 fruits plus 5 légumes par jour, c'est pas possible. » Bah oui, c'est pas possible. Moi non plus, je peux pas le faire. Pourtant, je mange équilibré parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de manger 5 portions de fruits et légumes par jour. 5 portions, c'est simple. C'est, je me réveille le matin, par exemple, je prends mon petit déjeuner. Dans mon petit déjeuner, je rajoute 2 kiwis. Voilà. Donc, ça fait déjà une première portion de fruits. Voilà.
Donc, c'est pas... J'ai déjà consommé 2 kiwis, donc il me reste plus que 3.
Alors, les 2 kiwis correspondent à une portion de fruits. On est à peu près à 100-150 grammes. Donc, une portion de fruits, c'est une pomme, une poire, une orange, 2 kiwis, 2 petites clémentines. Là, voilà, ça correspond à une portion. Donc, le matin, j'ai mes 2 petits kiwis. Ça correspond à une portion de fruits que je peux remplacer aussi, si c'est plus simple, par une compote sans sucre ajouté. Ça peut remplacer le fruit pour les personnes qui, déjà, peuvent avoir des petites intolérances, peut y avoir des allergies aux fruits frais ou tout simplement les personnes qui n'aiment pas les fruits frais. Voilà. Ensuite, je continue ma journée, j'arrive au déjeuner. Dans mon déjeuner, je peux consommer, un gratin de courgettes. Et donc, dans mon gratin, j'ai de la courgette, c'est une portion de légumes. En dessert, je finis mon repas avec, pourquoi pas, un yaourt. Et puis, je peux ajouter à ça une banane. Donc, ça me fait une deuxième portion de fruits et toujours une portion de légumes. Donc, je suis déjà à 3. Je continue ma journée. Le soir, je commence le repas avec une petite salade de carottes râpées, par exemple, vinaigrette. Deuxième portion de légumes. Et puis, dans mon repas, je ne sais pas, je décide de faire, des lasagnes, par exemple, avec une salade verte à côté. Eh bien, là, j'ai ma deuxième portion de légumes. Voilà, ma troisième portion de légumes. Et donc, si j'additionne le tout, j'ai 3 portions de légumes pour 2 portions de fruits, je suis dans les recommandations. Voilà comment se répartit un petit peu cette recommandation de 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, c'est réalisable.
C'est réalisable à condition de comprendre ce qu'on demande de nous. Parce que 5 fruits et légumes, je pense que la majeure partie des personnes pensent qu'il faut manger soit 5 fruits, soit 5 légumes,
exactement.
Et puis c'est tout.
Exactement.
Alors que là, de ce qu'on comprend, c'est des portions, et selon le fruit ou le légume, ça peut être différent. Mmh. Selon certains fruits, c'est 2 peuvent faire une portion,
exactement.
1 peut faire... Comment avoir ces informations? Parce que le choix des mots, du coup, est important, mais nous, on n'a pas ça. Et tout à l'heure, vous nous parliez des interventions dans les écoles. Mmh. Est-ce que lors de ces interventions, vous mettez le point sur ça? Et est-ce que vous pensez que ces interventions sont suffisantes?
Alors... oui, je parle beaucoup justement donc de ces repères du Programme National Nutrition Santé qui sont indispensables. Est-ce que mes interventions sont suffisantes? Déjà, donc, à mon échelle, je pense que quand j'interviens dans les écoles, oui, il y a un impact parce que je commence toujours mes interventions par des questions, des prérequis pour essayer d'évaluer un petit peu l'état des connaissances des enfants, des ados. Ensuite, je mets en place mon action de sensibilisation et par la suite, je réinterroge pour voir ce qu'ils ont retenu. Donc oui, je pense qu'il y a un impact parce que dans la majorité des cas, voire même 100% des cas, les enfants, les jeunes ont retenu les informations principales que je souhaitais passer. Après... Bon, à mon échelle est petite. Il faudrait qu'on se mobilise peut-être plus, professionnels de la nutrition, médecins, etc., à faire de la prévention et de la sensibilisation dès le plus jeune âge. Et pas seulement auprès des collégiens, pas seulement auprès des étudiants, etc., aussi auprès des parents. Parce que en école élémentaire, c'est les parents en fait qui gèrent l'alimentation à la maison et ça peut commencer déjà avec la mise en place d'un goûter équilibré et laisser de côté les paquets de chips, etc. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que donc après un petit instant, tu vas pouvoir nous dire à quel moment on peut avoir ce type d'information? Est-ce qu'il faut consulter un nutritionniste ou non? Parce que là, généralement, je suppose que les personnes qui viennent te voir, c'est seulement quand elles ont un problème. Donc, comment y remédier? Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un nutritionniste avant d'avoir ces fameux problèmes, ou est-ce que, bah, comme toute maladie, on attend de
d'être malade pour
y aller. Jingle.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
De retour sur Mon Paris Santé avec Virginie et Manon. Oui. Alors Manon, tu nous parlais donc de, tu es nutritionniste, tu nous parlais de la nutrition et tu étais en train de nous parler de des consommations à avoir, des bons produits, de la façon de consommer ces produits-là. Est-ce que tu peux continuer?
Oui, tout à fait. Donc j'ai parlé tout à l'heure donc des produits céréaliers, enfin les féculents de manière générale, des fruits et légumes, des produits laitiers viennent s'ajouter à ça au quotidien aussi une consommation de protéines. Alors ça peut être des protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, mais aussi des protéines végétales comme les légumineuses, notamment les lentilles, haricots rouges, les pois chiches, qui vont avoir un rôle hyper intéressant donc à l'adolescence, parce que c'est ce qui va permettre le renouvellement des tissus. Et donc le développement de nos os, le développement de nos muscles, le développement des cheveux, etc. Donc primordial. Et puis après au quotidien, possibilité d'ajouter quand même un peu de plaisir. Donc des matières grasses, de l'huile, alors plutôt végétale, de l'huile, ça peut être aussi une poignée de graines oléagineuses. Ça fait partie des nouvelles recommandations du programme, enfin du PNNS. Les graines oléagineuses, c'est tout ce qui est amandes, noix, noisettes. Le PNNS recommande une poignée, donc entre 15 et 30 grammes par jour. Il y a énormément de vertus là-dessus. Ça contient quelques petites protéines végétales. Ça contient aussi des bonnes matières grasses, comme je le disais. Et ça va être un allié aussi sur la satiété. Quand on a un petit creux, ben, au lieu de prendre un biscuit, une barre céréale, etc., ben, une poignée d'amandes, ça vient caler et permettre de patienter jusqu'au repas d'après. Voilà. Et puis ensuite, on peut ajouter un petit peu de produits sucrés, donc comme je le disais, toujours naturel, de préférence, du miel, du sirop d'agave, etc., pour sucrer les préparations.
Alors, tu as parlé de protéines. Tout à l'heure, on a parlé du sport, des activités physiques. Qu'est-ce que tu penses du fait... là, quand on va dans une salle de sport, n'importe quelle salle de sport, il y a toujours des distributeurs avec des barres, avec protéinées, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, oui. Des poudres. C'est quoi ce phénomène?
Alors, ça c'est, oui, c'est un petit peu un phénomène de mode. Attention, ouais, je tiens à mettre un point de vigilance là-dessus. Alors déjà, c'est du marketing hein, dans la salle de sport, effectivement. Quand on sort du sport, souvent on a faim, donc c'est aussi stratégique de mettre un distributeur à la sortie, parce qu'on va avoir tendance à y aller, un petit peu comme quand on va faire nos courses et qu'on va faim, on va avoir tendance à tout acheter, donc bien faire attention à ça. Et donc oui, dans ces distributeurs on va retrouver plein de choses, notamment des choses protéinées, parce qu'on sait que les protéines sont importantes justement pour l'activité physique, mais si on répond à nos apports au quotidien, ça suffit, pas besoin d'en rajouter. Ces protéines, on peut les retrouver naturellement. dans la viande, le poisson, les œufs, mais aussi dans les produits laitiers comme le yaourt, le fromage blanc. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le skyr qui est très à la mode, mais c'est un super produit laitier, très riche en protéines et faible en matières grasses. Et ça va venir aider le corps justement à réparer sa fibre musculaire, parce que quand on parle de protéines et de sport, en fait les protéines après la pratique sportive vont pouvoir venir régénérer notre fibre musculaire qui a été abîmée avec la pratique sportive. Voilà. Donc là, ça va être stratégique. Par contre, attention, vraiment, on retrouve donc oui des barres protéinées, même des protéines en poudre, etc. Déjà, si on décide de se faire supplémenter en protéines, il faut absolument être suivi et se faire accompagner par des professionnels, parce que ça peut entraîner eh bien, des risques énormes pour la santé, des problèmes au niveau des reins typiquement, mais aussi au niveau du cœur. Donc faire attention à ça. Et pour les barres, souvent, en plus des protéines, on va retrouver du sucre et du mauvais gras. Donc là aussi, c'est pas ce qui va être recommandé pour une alimentation équilibrée et santé.
Puis on va consommer plus que ce qui est prévu finalement, puisque c'est...
Exactement, parce qu'en fait, si on respecte les recos avec une portion de protéines animales par jour et un peu de protéines végétales, normalement, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. On répond à nos apports.
D'accord. Et est-ce que par rapport à l'enquête de tout à l'heure, que j'ai citée tout à l'heure, par rapport aux soucis de santé liés à la nutrition, l'enquête dit que les personnes les plus touchées, ce sont les personnes les moins aisées. Oui. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? C'est confirmé par rapport à tes patients ?
Oui, c'est confirmé par rapport à mes patients. Je consulte dans une ville, justement, un peu quartier prioritaire, où j'ai des patients qui ont des difficultés au quotidien de subvenir à leurs besoins. Et effectivement, quand je fais une enquête alimentaire sur leurs habitudes de vie, etc., c'est toujours beaucoup d'aliments ultra transformés, des choses néfastes pour la santé quand c'est consommé en excès. Et c'est avéré. Et il y a énormément d'études qui ont montré que oui, les personnes en situation... Donc de précarité où les fins de mois sont compliquées, vont orienter leur choix vers des produits ultra transformés et néfastes. À cela, bon, vient bien sûr, je pense qu'il y a la dominante budget où on va vers la facilité et on va aussi vers la quantité, voilà, avec des promotions. Plus on prend de paquets de gâteaux, il y a le troisième offert, etc. Là aussi, c'est un piège. Et il y a aussi peut-être un manque d'éducation, voilà, sans stigmatiser du tout. Il peut y avoir un manque d'éducation sur l'importance de l'alimentation sur notre santé. Et c'est souvent... l'alimentation, ce n'est pas forcément la priorité pour ces populations-là. Et c'est pour ça que je les retrouve en consultation où on a déjà des pathologies, on a déjà des maladies qui sont ancrées, un diabète, de l'hypertension, du cholestérol. Voilà, c'est déjà trop tard. Alors, j'ai un discours un peu fatal, mais attention, ce n'est pas parce qu'on a un diabète ou de l'hypertension qu'on ne peut pas vivre correctement. Le tout, c'est justement d'avoir un professionnel de santé, professionnel de la nutrition, qui permettra justement de rééquilibrer la maladie pour pouvoir vivre correctement avec.
Voilà. D'accord. Est-ce que pour les personnes qui peuvent avoir une bonne alimentation, mais qui sont issues de familles porteuses de maladies chroniques, génétiques, qu'on peut avoir, parce que les parents les ont, les grands-parents les ont, qu'est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce qui peut être préconisé pour ces personnes-là, sachant qu'elles ont déjà une bonne alimentation, qu'elles sont conscientes qu'elles peuvent être sujettes à des maladies très rapidement, très facilement?
Alors ça me fait rebondir déjà sur le fait de se renseigner aussi au sein de sa famille, savoir quels sont les antécédents familiaux qu'il y a. Est-ce qu'il y a du diabète? Est-ce que ma mamie a eu du diabète? Est-ce qu'il y a eu des cancers? Est-ce qu'il y a... C'est hyper important, parce que du coup, quand on est conscient et qu'on sait un petit peu ce qui risque de se propager dans notre famille, ça permet d'anticiper, de mettre en place, comme tu le disais, des actions au quotidien qui permettront d'éviter cette apparition. Je prends l'exemple de mon compagnon, par exemple. Dans sa famille, il y a beaucoup de diabète. Son père a du diabète, sa grand-mère a du diabète. Il y a de fortes chances que lui ait du diabète. Donc, pour prévenir ça, il en est conscient, ce qui va être intéressant, c'est de mettre en place des repas équilibrés et d'éviter les pics, justement, de glycémie, parce qu'il est susceptible d'en avoir. C'est génétique. Cependant, en mettant en place les recommandations pour prévenir le diabète, il se peut, il a de fortes chances de ne pas l'avoir. D'accord. Donc, on peut éviter tout à fait l'apparition de pathologies en mettant en place une alimentation équilibrée. Oui.
Donc on peut l'éviter. On parce peut que l'éviter. Des fois, on peut partir du principe, oh, c'est bon, c'est génétique, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Et donc pourquoi me priver voilà.
Et ben justement, non, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est une chance de savoir un petit peu ce qu'il y a dans notre famille comme maladie, parce que ça permet à notre échelle de jouer et de prévenir cette apparition-là. Ouais.
D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est important d'aller consulter un nutritionniste, même si on n'a aucun souci de santé, que ça soit chez une femme? Alors, parents, ou
je trouve que ça peut être intéressant. Oui, c'est intéressant de faire un bilan nutritionnel. Déjà, pour savoir si on répond correctement à nos besoins, pour éviter d'apporter trop de nutriments, puisque ça peut être dangereux et néfaste, mais aussi éviter les carences. Voilà, ça peut être intéressant. Savoir, par exemple, si on suit tel ou tel régime alimentaire, quand on est végétarien, végétalien, etc., peut y avoir des carences. Donc là, c'est hyper important de faire un bilan auprès d'un nutritionniste, voilà, de manière générale. Oui.
D'accord, donc là, tu as parlé des différents régimes alimentaires. Donc comme pour les protéines tout à l'heure, qui sont un petit peu un effet de mode et on ne sait pas trop quoi choisir, comment les consommer. Pour les régimes alimentaires, donc tu nous as parlé tout à l'heure du jeûne intermittent.
Oui.
Et là, tu viens de citer les végétariens, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dans les aliments à consommer, il y a certains aliments qui sont nécessaires, qui sont importants, mais que les végétariens ne peuvent pas, ne peuvent pas consommer?
Alors effectivement, déjà c'est hyper intéressant de revenir sur ces termes végétarien, végétalien, etc. On a aussi même le flexitarien, par exemple, je suis flexitarienne.
Tu veux bien nous faire un petit...
Le flexitarisme, en fait, c'est le fait de consommer de tout, mais de réduire un peu sa consommation de viande, et donc à une à deux fois par semaine maximum, et d'orienter ses choix au niveau de la viande vers de la qualité. Donc voilà, par exemple, je vais acheter ma viande à la boucherie, etc. J'essaye de cibler aussi des labels rouges, par exemple, donc des labels de qualité reconnus par l'État, qui vont accentuer vraiment la qualité et le fait de comment a été traité l'animal. Voilà, donc ça, c'est le flexitarisme. Ensuite, on a le végétarisme, donc plusieurs types de végétariens. On a l'ovo-lacto-pesco-végétarien, où là, c'est un végétarien qui va consommer des produits laitiers, du poisson et des œufs. On a l'ovo-lacto-végétarien qui, lui, ne consomme ni poisson ni viande, d'accord ? Il consomme que des produits laitiers, et des œufs. Et de manière générale, quand on parle de végétarien, très souvent, c'est une personne qui ne consomme ni de viande ni de poisson. Voilà, c'est pas de chair animale. Ensuite, on a le végétalien qui se différencie du végétarien du fait qu'il ne consomme pas non plus donc de chair animale, pas de poisson, pas de viande, mais non plus de produits issus des animaux, donc pas de lait, c'est-à-dire pas de yaourt, pas de fromage blanc, pas de fromage, pas d'œuf non plus. D'accord ? Là, on n'est vraiment que sur une consommation de produits végétaux, d'accord ? À base de produits céréaliers, féculents, légumineuses, fruits, légumes, etc. Et donc, quand on suit un régime végétarien, il n'y aura pas nécessairement de carence parce qu'on apporte quand même quelques protéines animales qu'on va retrouver dans les œufs, dans les produits laitiers, donc pas de souci. Par contre, quand on est végétalien et qu'on consomme uniquement des produits végétaux, peut y avoir des carences, notamment au niveau des protéines. Pourquoi ? Parce que dans les protéines végétales, je n'ai pas tous les acides aminés qui sont indispensables à mon corps. Les acides aminés, ce sont des petites molécules qui composent les protéines. Et donc, quand on parle de protéines de qualité, on a tous les acides aminés. Donc, il n'y a pas ce problème-là avec la viande, le poisson, les œufs, parce que j'ai tous mes acides aminés. Par contre, dans la viande, dans les produits végétaux, pardon, il en manque. Et donc, il va falloir, dans ces cas-là, faire les bonnes associations pour avoir tous ces acides aminés. Et donc, je vais associer un produit céréalier, donc par exemple de la semoule, du blé, ça peut être aussi du riz, du quinoa, avec une autre source qu'on appelle les légumineuses, comme par exemple les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches. Parce que dans mes haricots rouges, mes pois chiches, mes lentilles, donc mes légumineuses, je vais avoir un acide aminé manquant qui va être apporté par mes produits céréaliers. Et à l'inverse, bien, dans mon produit céréalier, j'ai un autre acide aminé manquant qui sera apporté par mes légumineuses. Et donc ensemble, je vais avoir des protéines de qualité. Et c'est ce que les industriels le font très bien, notamment à destination justement de ces personnes qui suivent des régimes végétaliens. On retrouve des steaks végétaux, des choses comme ça. Parce que, alors, c'est plus simple, mais ça reste de l'ultra transformé. Mais c'est plus simple pour les végétaliens parce que les associations sont déjà faites. Voilà. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, peut y avoir aussi un problème au niveau de la vitamine B12 qu'on retrouve uniquement dans les produits d'origine animale. Et donc là, si on suit un régime végétalien, il faudra absolument se faire supplémenter en B12. Voilà. À côté de ça, on a aussi les véganes. Les véganes, en fait, ce sont simplement des végétaliens. Ils suivent le même régime que les végétaliens, mais ils vont étendre leur pratique à leur mode de vie. Et donc, ne pas porter de fourrure, ne pas porter de laine, parce que bon, on le récupère du mouton, ne pas aller au zoo, ne pas aller au cirque, etc. Pas d'animaux de compagnie non plus, pas de cuir. Voilà, c'est tout un mode de vie qui vise à protéger l'animal. Voilà.
D'accord. Et donc, pour ces personnes qui suivent des régimes particuliers, un bilan de nutrition est nécessaire?
Oui, nécessaire pour moi. En parallèle, des analyses biologiques pour vérifier s'il n'y a pas de carence, etc., en termes de vitamines, de minéraux, mais aussi pas de problème de glycémie. Et là, pour ces populations-là, d'autant plus, oui. Alors, il ne suffit pas de faire plein de consultations.
Oui, juste, à quelle fréquence, justement?
Juste une consultation suffit pour déjà faire un bilan, que moi, je puisse leur donner des exemples de menus équilibrés, leur donner les astuces pour ne manquer de rien en suivant leur régime alimentaire.
D'accord. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'on consomme plus de viande, par exemple les steaks transformés, oui. Ça reste du coup des produits transformés, oui. Donc une surconsommation. C'est pas, oui, bon non plus.
Néfaste, négatif, exactement. D'ailleurs, je reviens sur la viande rouge et la charcuterie. Beaucoup d'études ont montré qu'une surconsommation de ces produits-là pouvait aussi favoriser l'apparition du cancer colorectal, donc colon-rectum. Donc, une prévention là-dessus. Le PNNS recommande maximum 500 grammes de viande rouge par semaine. Je trouve ça déjà hyper large. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui en consomment plus. Donc voilà, moi, mes recommandations à moi, ce serait 1 à 2 portions de viande rouge par semaine.
Voilà. Est-ce que tu penses que c'est grave, par exemple, au niveau de la surconsommation, on peut avoir une très bonne alimentation, mais il y a certaines périodes dans l'année, l'hiver, Noël, la raclette, là où est-ce qu'on va surconsommer, du coup, beaucoup de fromage, beaucoup de viande, beaucoup de charcuterie. Oui. Est-ce que quand c'est une surconsommation sur un petit temps, un petit, voilà, la gravité, elle peut être placée où?
Non, là, effectivement, si c'est en période de fête, c'est... Oui, on va avoir des repas riches. C'est comme si on part au ski. Oui, il y aura des repas riches, mais en parallèle, il y a une activité physique. En fait, je pense que là, c'est un équilibre à maintenir. Mes petites astuces, ça va être d'essayer déjà de prendre son temps, de bien mâcher, bien mastiquer, d'apprécier les repas parce que ça permettra d'éviter de se resservir. D'accord. Il faut à peu près 15 à 20 minutes au cerveau pour qu'il puisse recevoir le signal de « j'ai mangé » et permettre à la satiété d'arriver. Si j'ai une assiette et que je la mange en 5 minutes, bon, bah, je vais avoir tendance à me resservir parce qu'en fait, le message n'a pas eu le temps d'arriver. Si par contre, cette même assiette, donc avec la même quantité, prend 15 à 20 minutes, j'arrive à la fin, je n'ai plus faim, je n'ai pas besoin de me resservir et le dessert, c'est du bonus. Et en fait, c'est l'objectif à mettre en place au quotidien, bien prendre le temps. Et donc, quand on va consommer ces plats-là, prenez le temps. Par exemple, la raclette, bon, bah, on évite de prendre 2 poêlons, de mettre 2 fromages en même temps, de servir et de remettre du fromage. Non, c'est un poêlon, un fromage que je pose, je mange mon fromage. Une fois que mon fromage est terminé, j'en remets. Et vraiment, c'est véridique. Non, mais je sais, ça paraît un peu absurde. Mais mes patients le font et me disent « Mais maintenant, en fait, j'ai réussi à manger que 5 fromages. » Alors que d'habitude, j'en mangeais le double. Mais vraiment, scientifiquement, c'est prouvé. Ouais. Donc, bien prendre le temps. Et après, ne pas culpabiliser. C'est des périodes de fête. Donc, on fait la fête. Voilà. Sans être dans l'excès, sans... être au point d'avoir mal au ventre, etc., ce n'est pas le but, mais on peut aussi profiter de ces aliments et de ces repas de fête.
Merci. Est-ce que Virginie, tu as des questions à poser à Manon? Est-ce que tu as déjà fait un bilan nutritionniste?
Alors, j'ai fait un bilan nutritionniste il y a quelques années parce que, en fait, je me faisais opérer des pieds.
Ok.
Et donc, je n'allais pas pouvoir pratiquer d'activité sportive pendant un mois et je voulais un régime alimentaire, effectivement, qui me permettait de compenser le fait de ne pas faire de sport. Parce que, effectivement, c'est très important d'avoir une activité physique pour permettre d'éliminer ce qu'on consomme. Et effectivement, j'ai eu un régime assez strict pendant un mois. Alors, ce qui m'a permis de perdre effectivement 5 kilos.
Okay.
Mais j'ai conservé des bonnes attitudes alimentaires. Alors comme tu le dis, effectivement, je trouve que c'est très important de ne pas stigmatiser, de ne pas effectivement se priver sur certains petits plaisirs. Mais effectivement, tout est une question de proportion, tout est une question d'ordre.
Exactement.
Voilà, les conseils qu'Olivia m'a donnés pour un repas, toujours commencer par des fibres, par des salades, par des légumes, par des soupes. Et puis, voilà, moi, ce que je voudrais effectivement rebondir sur ce que, voilà, tout au long de ton intervention, tu as parlé effectivement des bénéfices d'un régime alimentaire équilibré. Je trouve que ce qui est très, très important, c'est de redonner aux gens le goût de cuisiner, parce que c'est fondamental. Et de dire, c'est pas compliqué. On peut, voilà, on peut effectivement trouver... les gens vont vous dire, ça vous prend du temps. Oui, ça vous prend du temps, mais ce temps, il peut être réparti. Et est-ce que tu as des conseils, toi, à donner justement sur les habitudes alimentaires le week-end, comment on prépare ces repas, comment est-ce qu'on peut, par exemple, je sais pas, si on prépare une sauce tomate, ben voilà, on va faire une marmite et puis ça va faire pour plusieurs proportions si on la congèle. Quels conseils tu donnes aux patients qui viennent te voir, qui te disent, ben moi j'ai pas le temps de cuisiner, ma vie elle est trop occupée entre le travail, les enfants, voilà.
Ça, c'est une problématique d'ailleurs qui revient en consultation. J'ai pas le temps et puis j'ai pas envie, moi non plus. La cuisine du quotidien, c'est pas ce qui me fait vibrer. Mais en fait, ce que je vais conseiller, et d'ailleurs, je le mets beaucoup en place, que ce soit sur mes réseaux, etc., c'est le batch cooking. Le batch cooking, c'est une méthode qui existe déjà depuis quelques années où on va bloquer peut-être une heure et demie le week-end à cuisiner ses repas de la semaine. Et c'est un gain de temps au niveau de la semaine. On arrive, on a juste à réchauffer. Ça permet aussi de faire des économies au niveau du budget parce que je sais ce que je vais acheter pour ma semaine et je n'achète pas plus. Et voilà. Et je sais que j'ai énormément de bons retours là-dessus. Donc, j'organise des ateliers batch cooking, d'ailleurs, le samedi en général. Alors, en général, c'est un samedi par mois. Mais après, les gens peuvent réutiliser en fait ces recettes et les refaire. Et je sais que ça fonctionne bien. Après, manger équilibré et cuisiner, ça ne demande pas non plus énormément d'efforts. Il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place. Ce n'est pas que des produits frais. Il y a une très bonne alternative, c'est le produit surgelé où là, les fruits et légumes sont déjà découpés, lavés. C'est un gain de temps. Il y a juste à faire chauffer, cuire, ajouter son petit assaisonnement et ça permet d'avoir des fruits, des légumes.
Constamment. Parce qu'il faut cuisiner, mais bien cuisiner, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure.
Exactement.
Pas n'importe comment.
Voilà, tout à fait. Donc, vapeur au four, même à la poêle, avec un fond d'eau ou une petite cuillère d'huile d'olive, il n'y a aucun souci. En tout cas, on fait ses propres assaisonnements. Voilà, je pense que c'est le mieux. Et puis les féculents, c'est pareil, c'est pas compliqué. Mais un conseil, c'est peut-être d'établir ses repas à l'avance. Le week-end, pareil, on se pose 10 minutes et on fait nos repas de la semaine. C'est un gain de temps, il n'y a pas besoin de réfléchir. On sait ce qu'on a déjà dans le frigo, dans le réfrigérateur. Et voilà, ce seraient mes astuces. Et pareil, si on est gourmand, si on a un bec un peu sucré, etc., faites vos gâteaux maison. Ça peut déjà anticiper les petits déjeuners du matin ou les goûters des enfants, goûters des ados. Voilà, ça peut être aussi pas mal.
D'accord. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Virginie. Je trouve que c'est super important parce que quand les personnes veulent faire un régime, par exemple, même si on a dit que ce mot-là n'était pas bon, ou un rééquilibrage alimentaire, dans tous les cas, l'activité physique est indispensable.
Oui.
Mais à ce niveau-là, généralement, on va penser, bon, j'ai envie de perdre du poids, par exemple, où je dois faire attention à mon alimentation, donc je dois faire pratiquer une activité physique, donc je vais m'y mettre et je vais aller voir un coach sportif, par exemple. Mais c'est vrai que dans le cas inverse, quand il nous arrive quelque chose où on doit arrêter le sport et qu'on n'est pas forcément un accro du sport, ça ne va pas nous déranger plus que ça. On pense pas se dire, je vais aller consulter pour voir comment je vais équilibrer ce manque d'activité physique par la nourriture. En tout cas, ça m'a... Je trouve ça super intéressant
à évoquer. Bon d'avoir anticipé.
Et aussi, j'ai aussi une autre petite question qui me concerne personnellement parce que moi, je suis sportive, je cours beaucoup, je prépare notamment le marathon.
En avril ?
Oui.
Génial.
Ce sera mon deuxième. J'ai couru le premier l'an passé, j'ai dit plus jamais. Et je me suis quand même réinscrite cette année. Et alors, j'ai eu des petits problèmes de crampes à partir du 35-36e kilomètre. Je voulais savoir quel conseil tu donnais aux coureurs pour justement éviter, apprendre à gérer l'apport de glucides tout au long de la course. Et puis, quels aliments à éviter avant, quels aliments à conseiller pendant.
Alors, avant, surtout, éviter les fibres. Voilà, il faut vraiment des féculents, mais on évite les légumes, on évite les légumineuses qui vont être riches en fibres, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui se crée quand on court, c'est que bah, tout le sang, toute la circulation va dans les bras et surtout dans les jambes. Et en fait, tout notre système digestif, il est laissé de côté. Et donc, la digestion est compliquée et on n'est plus du tout maître de notre transit intestinal, etc. Donc, les fibres, je déconseille parce que ça va avoir tendance à favoriser l'apparition de diarrhée, etc. pendant la course.
Même les fruits ?
Même les fruits.
Même les fruits.
Oui, d'accord. Même les fruits. Plutôt compote.
D'accord.
Voilà. Pour un apport énergétique, etc. D'ailleurs, ça peut être consommé aussi pendant la course, la compote. Petite compote à boire. Bon, en général, ça va être des gels parce que les gels un petit peu sucrés, ça s'absorbe beaucoup plus rapidement. Avril, donc là, on n'est pas non plus dans de fortes chaleurs. Non. Voilà, donc ça va pas besoin d'ajouter beaucoup de sel aussi dans la boisson. Après, bon, ça va être surtout féculent pour avoir... en fait, il faut faire le plein en glycogène. Donc le glycogène, c'est la forme de réserve du sucre dans le corps. Et c'est ce qui va nous permettre de tenir l'endurance. Donc faire le plein en sucre, mais sucre lent. Donc ça va être des féculents. Voilà, des pâtes, du riz, de la pomme de terre, voilà. Et puis protéines, parce que le courir un marathon, ça vient complètement perturber le corps. Voilà, c'est énorme, hein. Ouais. C'est un choc pour le corps. Donc beaucoup de protéines. Là, pour le coup, je te conseillerais midi et soir carrément pour anticiper. Et puis en récupération également. Pas mal de protéines, donc ça peut être tout simplement un fromage blanc, parce que c'est vrai qu'après plus de 4 heures de course, bon, l'estomac est noué, comme je vous le disais.
Ouais, on n'a pas envie de...
Voilà, on n'a pas envie de manger quoi que ce soit, donc il faut que ce soit des choses faciles à avaler. Et c'est vrai que, bon, il y a des barres protéinées, il y a peut-être un fromage blanc aussi, ça peut mieux passer pour la récupération. Ça peut être intéressant, voilà. Mais en tout cas, on cible les féculents. Très, très bonne hydratation. On laisse de côté les fibres, donc légumineuses, fruits et légumes. Et on pense à sa récupération. Et pendant l'activité, là, du sucre, un petit peu de sel dans la boisson, mais bon, ça va. Et voilà.
Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Non, en tout cas, j'étais contente de pouvoir partager un petit peu mon expérience et mes conseils en tant que professionnelle de ce domaine-là. Et puis, voilà, avec plaisir pour revenir.
Merci beaucoup. Donc, vous pouvez retrouver des informations sur les recettes, les idées d'activités, astuces pour manger sur les sites comme santé.gouv.fr ou bien mangerbouger.fr. Mais aussi donc sur le site, sur ton site,
ouais,
à travers tes activités du samedi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, donc moi, j'ai un site, c'est Manon Clavier, diététicienne. Et après, sinon, je suis beaucoup sur les réseaux, donc sur Instagram notamment. Donc, c'est Manon-du-bas diététicienne. Et sur TikTok. Et c'est sur TikTok, en fait, que je fais mes lives batch cooking notamment. Voilà, et c'est toujours Manon tire du bas diététicienne.
Merci beaucoup. On peut retrouver donc Virginie avec nous à notre prochaine émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur Mon Paris FM. Et n'oubliez pas qu'une activité physique régulière, des habitudes alimentaires saines et le maintien d'un poids équilibré sont des éléments essentiels pour un mode de vie sain. Prenez soin de vous et on vous retrouve sur Mon Paris Santé pour un prochain épisode. Merci.